Je vais en parler avec le docteur Quash. Voilà. Ça va être ma première question. Comme je disais, j'en ai 1 million de questions à lui poser. Mais ça, ça inquiète énormément.
Ah, ça, oui.
En Corée du Sud, il y a plus de 180 personnes qui ont retesté positif. C'est le même problème à Singapour, qui avait réussi avec succès à contrer le tsunami de la pandémie. Donc ça, c'est très intéressant ce que vous nous dites là. Sabrina, je vous arrête parce que on va déborder. Merci. Et on va vous retrouver de toute façon à 9h30.
Voilà.
Docteur Caroline Quash, bonjour.
Bonjour, M. Houd.
Avez-vous entendu, Dr Quash? On est très inquiet, notamment en Corée du Sud, où il y aurait 180 personnes qui ont été retestées positives à la COVID-19 après avoir passé au travers de la maladie. Donc, ça, est-ce que c'est une indication que notre immunité, quand on a vaincu la maladie, n'est pas si grande que ça?
En fait, je n'ai pas vu cette étude-là personnellement. J'aurais aimé ça savoir après combien de temps ils les ont retestés, le savez-vous?
70 jours.
OK. Qu'elles aient été réinfectées, c'est quand même... Il faut voir s'il y a encore de la transmission dans le pays. Là, je ne peux pas vous dire que je connais les données de la Corée du Sud. Mais ce qu'on voit, par contre, c'est que les gens restent positifs pendant autour de 42 jours. Est-ce que c'est une nouvelle réinfection? Je pense pas que ce soit le fait que le virus reste et continue à les infecter, mais ce qu'on a l'air de voir de plus en plus, c'est qu'il semble y avoir une immunité partielle, donc on a l'air d'être protégé en partie contre les nouvelles infections, mais on risque d'être capable encore d'excréter le virus si on est réexposé au virus, ce qui fait que en termes de protection de groupe, on n'est pas plus avancé. On espérait que une fois qu'on l'ait fait, on serve un peu de bouclier aux autres qui ne l'aient pas encore fait. Mais si on est protégé puis qu'on a des symptômes très légers, qu'on s'en rend pas compte, c'est le même problème qu'avec tous les asymptomatiques présentement, mais qu'on excrète le virus, ben alors on est tout simplement une nouvelle source pour d'autres personnes. Alors ça rend les choses fort compliquées et ça amène même des questions à savoir si on va être capable de développer un vaccin ou pas. Parce que si la maladie naturelle n'induit pas une immunité qui dure, d'essayer de la faire par génie humain, c'est habituellement moins...
Mais docteur Quash, êtes-vous d'accord que la clé pour un déconfinement et aussi une reprise d'activité en société, que ce soit les entreprises ou les écoles, ça passe également par des tests. Il faut avoir des tests pour mesurer un peu ce déconfinement, pour nous accompagner. Si on n'a pas de tests, ça se fait un peu de façon aléatoire.
Oui, alors c'est sûr que les tests sont importants, mais... Ça prend aussi d'autres mesures. Alors, les tests vont servir à nous donner juste une idée de l'intensité de la transmission. Donc, si on voit, mais il faut tester, là, pas juste ceux qui sont aux soins intensifs, mais tester dans la communauté également. Et donc, si on voit que le nombre de tests positifs augmente en déconfinant, il va falloir qu'on mette en place des mesures pour peut-être revenir en arrière, reconfiner certains secteurs, certaines régions. Je pense que pour le déconfinement, ça vient aussi, puis on en parle depuis quelques semaines, mais avec le port du masque pour tous, quand on est regroupé, quand on est incapable de garder le 2 mètres en permanence entre les gens, parce que le plus grand problème, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, la personne qui a aucun symptôme et qui est porteuse, on en a de plus en plus là quand on fait des tests de nos employés, soit parce qu'on les envoie en CHSLD ou autre. On se rend compte là-dedans qu'il y en a quand même une proportion non négligeable qui est positive sans même le savoir. Et donc, la seule chose qui nous sauve pour l'instant, c'est qu'à l'hôpital, tout le monde porte tout le temps un masque. Donc, même si cette personne-là est positive, elle n'a pas contaminé son environnement, c'est que j'ai pas de cas secondaires à l'hôpital. Et donc, cette façon de faire, on pensait que les masques, ça serait peut-être là pour quelques mois, mais on risque d'être pris avec des masques pendant un petit bout de temps encore pour protéger les autres davantage que pour se protéger soi.
Ça, c'est intéressant ce que vous dites. D'ailleurs, je garde ça pour le dessert, ce que j'appelle la folie des masques. Partout où on en parle, c'est le sujet de l'heure. Je voudrais vous amener sur le point très important. Beaucoup, beaucoup de gens, de parents, très inquiets, Dr Quash, du retour en classe des enfants. Vous êtes pédiatre en plus. Quel est votre point de vue là sur le retour en classe, notamment des enfants du primaire?
Ben, au primaire, en fait, les enfants de moins de 10 ans ne semblent pas touchés par la maladie de façon importante. Non seulement n'ont-ils pas beaucoup de symptômes quand ils la développent, mais ils semblent aussi très peu enclins à l'attraper. Et quand ils l'attrapent, ne semblent pas être capables de la donner. Alors, il commence à y avoir quelques études. Là, il y en a une qui avait été faite en Chine où ils ont démontré que l'enfant est le premier à avoir la maladie dans moins de 10% des cas quand on regardait les noyaux familiaux. Là. Donc, l'enfant avait ramené la maladie à la maison dans moins de 10% des cas, alors que pour la grippe, on parle de plus de 50%. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'enfant de moins de 10 ans est tout à fait capable d'attraper la grippe à l'école et de la donner à ses parents. Mais pour le coronavirus, ça a l'air moins efficace. Pourquoi? On n'en a aucune idée, là, mais c'est les données qu'on voit présentement. L'autre papier, c'est un petit Français qui avait attrapé la COVID et qui avait été en contact avec à peu près 120 adultes, et personne dans ces contacts n'avait attrapé la maladie. Donc, encore une fois, on commence à avoir des éléments qui nous portent à croire que le jeune enfant, même s'il l'attrape, n'a pas l'air d'être si bon que ça à la donner, ce qui est un très bon élément. Les enfants au secondaire, c'est différent, mais encore une fois, au secondaire, ils sont capables de porter des masques. Hein, ce qui nous embête le plus, c'est la garderie puis le primaire, où leur demander de porter un masque toute la journée, ça va être super compliqué. Mais je pense que nos ados, si on leur dit, écoutez, vous allez à l'école, mais vous portez un masque, à ce moment-là, ça va bien, ça se fait. Là. Avec le masque, ce qui arrive, c'est que encore une fois, on évite, si on est porteur asymptomatique, de le donner à notre voisin. Ça prend quand même des contacts rapprochés pour le passer. La raison pour laquelle on est si bon à le passer, c'est qu'on ne sait pas qu'on l'a. On se rencontre à 2-3 dans un petit bureau, puis après 20 minutes, ben, on l'a donné. Mmh. Mais donc, il y a cet élément. Il faut juste le garder en tête. Là. Et je pense que ça fait partie des possibilités dans un déconfinement.
C'est tellement intéressant ce que vous dites, et ça nous démontre une chose, Dr Quash. On en apprend tous les jours. Tous les jours. Sur le coronavirus, mais aussi sur l'évolution de la COVID-19. Regardez, je vous cite, il y a un article très intéressant qui est paru tard hier soir sur le site, je crois, du Journal de Montréal. Les mesures sanitaires entourant le retour en classe pourraient varier selon l'âge des élèves. Et là, on dit que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, s'est adressé à des acteurs du réseau de l'éducation en disant que les consignes de distanciation pourrait varier. C'est-à-dire qu'au primaire, ça va être très difficile d'imposer à de jeunes enfants la distanciation de 2 mètres par rapport à celle, comme vous l'avez exprimé, des élèves du secondaire. Donc, il pourrait ne pas y avoir de maintien d'une distance de 2 mètres pour les enfants du primaire. Ça va faire quoi? Des règles différentes pour le retour à l'école?
Oui, mais en même temps, il faut être réaliste aussi. Là, demandez-vous à votre enfant de 6 ans de rester à 2 mètres de son meilleur ami avec qui il veut aller partager son lunch ou peu importe. À un moment donné, il faut aussi penser au bien-être des enfants. Et la grande difficulté dans tout ça, c'est qu'il y a toujours un équilibre à maintenir entre le tout ce qui est problème de pandémie d'un point de vue santé publique, sanitaire, mais aussi le bien-être psychologique et moral et les besoins développementaux de ces petites bêtes-là. Là, on les aime, nos enfants. On veut pas non plus les attacher dans un coin et leur dire « Écoute, tu bouges pas parce qu'autrement, tu vas attraper la COVID. » Surtout quand on sait que même s'ils l'attrapaient, ils seraient pas malades, puis on n'est même pas convaincu qu'ils l'attrapent si bien que ça et que c'est tout petit, ils n'ont même pas l'air de la transmettre si bien que ça. C'est sûr que c'est basé sur plein d'hypothèses, mais quand on sait que la COVID va continuer à se transmettre pendant encore des mois, là, on est loin d'avoir atteint notre 70% d'immunité collective, puis on est même plus sûr aujourd'hui qu'avec 70%, ça va vraiment arrêter de se propager compte tenu des dernières données dont vous parliez tout à l'heure.
Ouais.
Il faut être réaliste aussi. Là, si c'est quelque chose qui est là pour rester, il faut retrouver un semblant de vie.
Donc, mais ce que vous dites, Dr Quash, est très important parce que vous vous inscrivez dans la même lignée que notamment le président de l'Association des pédiatres, le Dr Marc Lebel, qui dit « Les enfants n'ont plus de vie. Ils ont besoin de retourner en société, retrouver leurs amis, jouer. Ils ne sont pas directement à risque. » Le bon Dr Lucier a dit la même chose cette semaine. Mais vous comprenez, Dr Quash, l'inquiétude de nombreux parents qui ne veulent même pas renvoyer leurs enfants à l'école.
Ah, je le comprends tout à fait. Quand on a des enfants, on espère toujours qu'il leur arrive jamais rien parce que c'est pour ça qu'on les a mis sur terre, mais en même temps, quand on regarde le risque pour ces enfants-là, il faut se demander si le petit rhume qu'ils vont attraper est plus grave que leur développement, que leur épanouissement à eux. Et donc, c'est pas une décision qui est facile à prendre. Moi, je vais vous dire, je suis sortie de là. Mon plus jeune est au secondaire. Fait qu'on va le renvoyer quand il va pouvoir y aller avec un masque s'il faut. Mais je regarde ma sœur qui en a une petite à la garderie. Genre, cet enfant-là est en train de virer complètement folle. Elle n'a pas de frère, pas de sœur. Sa mère est à la maison. Ça va, c'est bien. Mais ça a besoin de socialiser, ces petites affaires-là.
Alors, vous rejoignez le docteur Lebel qui dit les enfants n'ont plus de vie. Il faut leur redonner une vie sociale, une vie active.
Puis, pas à tout prix. C'est sûr que si le risque pour la santé des enfants était grand, là, si on avait des données qui démontraient que les enfants risquaient de décéder s'ils retournaient à l'école, à ce moment-là, le jeu n'en vaut absolument pas la chandelle. Mais il faut gérer le risque. Et c'est ça qui est toujours difficile. On est incapable d'avoir un risque zéro. Il faut gérer le risque. On sort dehors, on est déjà en train de gérer un risque de se faire frapper et autres. Ça fait partie des enjeux qu'il faut regarder. Alors, Dr Lebel et l'Association des pédiatres du Québec l'ont dit. Je pense que plusieurs acteurs du milieu de l'éducation le disent aussi. Il y a toutes les vulnérabilités qu'on n'est plus capable de gérer présentement. Là. Il y a des enfants qui ont besoin d'aller à l'école parce que c'est là où ils grandissent, c'est là où ils vivent, c'est là où ils mangent parfois même. Et donc, il y a d'autres choses à prendre en compte.
Dr Quash, abordons maintenant la question de l'heure, le masque. Le masque. Bientôt, on va avoir des masques Gucci à 400 $. Je dis ça en blague, mais écoutez, non, c'est pas une blague. Il y a des gens qui fabriquent des masques à 27 $, 30 $, 50 $, un peu design et tout ça. Je voudrais avoir votre avis sur la valeur scientifique du masque. Je vous ai lu quelque part cette semaine, je me souviens plus dans quelle entrevue vous aviez dit « Attention, il y a des masques qui sont pas vraiment efficaces, qu'on vous vend trop cher. Fabriquer un masque peut avoir les mêmes résultats pour beaucoup moins cher. »
Tout à fait. Alors, ce qu'on sait avec les masques, c'est, bon, d'abord, ceux qui essayent de vous vendre des N95 fabriqués maison, croyez-les pas, ça se peut pas. Puis, on s'est rendu compte que même les masques fabriqués en Chine, qui étaient supposément certifiés, ne rencontraient pas toujours les certifications escomptées. Maintenant, quand on n'a pas besoin d'un N95 quand on est un citoyen ordinaire, parce que le N95, qui est le masque hyper filtrant, là, sert à protéger la personne qui le porte quand quelqu'un tousse devant nous et quelqu'un, en fait, qui émet des aérosols. La raison pour laquelle on porte un masque pour tous, c'est plutôt pour protéger les autres. Donc, si moi, j'ai le virus, je veux pas le donner aux autres. Et avec le N95, c'est unidirectionnel, c'est-à-dire que ça me protège moi, mais ce que je tousse et je crache s'en va directement dans l'environnement. Fait qu'en fait, c'est encore pire que de rien avoir. En fait, c'est pareil que de rien avoir. Maintenant, quand on met un masque sur le visage, n'importe quel tissu, coton, linge à vaisselle, a déjà une efficacité filtrante pour arrêter les grosses gouttelettes qu'on émet quand on parle, par exemple, et qui pourraient contenir du virus si on était porteur asymptomatique. Donc, la seule chose qui a l'air de pas marcher dans les études, c'est la soie. Alors, j'ai dit à ma collègue de pas prendre ses carrés de soie Hermès pour se faire un masque.
Les carrés de soie Hermès? Ben non!
Oui, mais autrement, autrement, ça va. Ça va et on peut prendre un tissu là, qui est bien serré. Là, du coton, ça fonctionne et ça coûte pas 30 $ à faire.
Hier, Dr Quash, il y a une vidéo très populaire qui circule en ce moment que j'ai regardée. C'est une dame, elle est hispanophone, je sais pas, peut-être que ça vient d'Amérique latine. Elle se fabrique des masques avec des bas. Voici comment elle procède. Elle achète des bas blancs, vous savez, les bas de sport. Elle coupe les deux bouts. Elle coupe les deux bouts et puis elle se fait des oreillettes hein, pour pouvoir tenir le masque. Et à l'intérieur, comme les deux extrémités du bas sont coupées, elle glisse un papier tissu. Ça peut être un papier essuie-tout. Donc, elle peut le changer, laver le bas et s'en servir le lendemain. Ça a l'air très bien, en tout cas.
Oui, je pense que c'est pas pire qu'autre chose. Il y en a d'autres aussi qui font ça sans couture. C'est le genre de choses que je serais capable de faire avec un bandana qui plie en trois avec deux élastiques à cheveux de chaque côté. Zéro couture, on se met ça sur le visage et ça y est. Il faut réaliser que même un foulard, ça marche aussi. C'est juste que le foulard est moins étanche, là, puis à un moment donné, en été, il fait chaud. Mais toute barrière physique, en fait, puis plus il y a de couches, mieux c'est, là. Mais toute barrière physique arrête les grosses gouttelettes, là. C'est vraiment nos gouttelettes de salive qui partent quand on parle. C'est sûr que si on se met à éternuer, c'est plus compliqué. Quand on va avoir des allergies saisonnières, ça va être vraiment plus compliqué. Alors, je vous demande de traiter vos allergies saisonnières parce que éternuer à travers un masque, ça sort quand même, là.
Ouais.
Peu importe le masque. Mais donc, tu sais, c'est l'idée du coude quand on toussait ou qu'on éternuait, c'est exactement la même chose. C'est arrêter les grosses gouttelettes, là. Et donc, nos grands-parents, tu sais, ils se promenaient avec un mouchoir, puis à chaque fois qu'ils éternuaient, qu'ils toussaient, ils se le mettaient dans le visage, puis ils se le remettaient dans la poche après.
Oui, mais c'est vrai. C'était pas très, très hygiénique, ça.
Mais ça arrêtait la gouttelette dans le mouchoir. Bon, une fois que tu le remanipulais, c'était pas idéal, là, mais c'est le principe, c'est-à-dire qu'on arrête les gouttelettes à la sortie. Et ce dont on se rend compte cette fois-ci, c'est que quand on n'a même pas besoin de tousser pour les excréter, ces virus-là, on peut juste parler. Et donc, comme 50% des gens qui sont COVID positifs sont asymptomatiques, on n'est pas capable de dire « toi mets un masque, toi mets pas ». Alors, tout le monde en porte et on se protège tous comme ça.
Alors, nous allons retenir, Dr Quash, que vous ne recommandez pas d'utiliser le foulard Hermès, qui est trop cher pour le peu d'efficacité.
Non, je vais les utiliser dans mon cou à la place.
Ah oui, c'est plus élégant peut-être.
Oui,
Docteur Quash, je veux terminer sur deux études qui ont révélé les limites, l'hydroxychloroquine et la chloroquine cette semaine. Études américaines qui révèlent le peu d'efficacité de l'hydroxychloroquine et même les dangers d'une utilisation. L'autre, c'est ce produit au nom imprononçable, le remdesivir.
Oui.
Est-ce qu'on doit être déprimé par ces nouvelles? Ou si ça fait partie du processus de développer des médicaments, puis il y en a d'autres qui vont être testés, tout ça. Comment vous avez réagi cette semaine à cela?
Ben, c'est sûr que c'est toujours décourageant de savoir que ce sur quoi on fondait un peu d'espoir nous est retiré. Mais en même temps, la science fait en sorte qu'on a besoin de le savoir avant de l'utiliser à mauvais escient sur des patients qui risqueraient d'avoir des effets secondaires sans aucun bénéfice. Donc, c'est tout à fait correct de le savoir. C'est tout à fait correct que les résultats aient été publiés, même s'ils ont été négatifs, parce qu'à une certaine époque, les résultats négatifs n'étaient pas publiés, juste ce qui marchait. Et donc, on biaisait notre compréhension de la science. Mais donc, oui, on est toujours... je vous dirais que c'est un peu... désemparant de voir à quel point tout ce qu'on pensait savoir se change à mesure qu'on avance, mais c'est correct, c'est ça la science, puis on continue à chercher, puis on se retrousse les manches, puis on reprend.
Je veux terminer par parler du vaccin développé à l'Institut Jenner en ce moment de la prestigieuse Université d'Oxford. C'est une chercheuse qui est très renommée, Sarah Gilbert, qui dirige les travaux, et elle pense que le vaccin développé par Oxford, on a commencé d'ailleurs les tests cliniques sur deux cobayes, deux humains cette semaine. On pourrait peut-être déboucher vers un vaccin dès l'automne. Est-ce que vous croyez que c'est raisonnable de penser ça?
Ben, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle va déboucher sur un vaccin pour des études de phase 2 et 3 dès l'automne. Ça ne veut pas dire qu'il sera homologué. Ça veut dire qu'il va être assez sécuritaire pour être injecté sur un plus grand nombre d'humains. Mais après ça, à savoir si ça fonctionne ou pas, ça va prendre quand même quelques semaines à quelques mois. C'est sûr que, comme on disait la semaine passée, si quelqu'un était prêt à se faire challenger et se faire envoyer du virus directement dans le nez, on aurait les réponses beaucoup plus rapidement.
Oui, mais vous n'auriez peut-être pas de volontaire.
Ben, vous vous étiez porté volontaire la semaine
oui,
passée.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Par esprit d'héroïsme, je me parle. Non, mais c'est important ce que vous dites, Dr Quash, parce que dans l'équipe du Dr Gilbert, il y a un médecin qui a dit, et vous avez raison, on sauterait beaucoup d'étapes si on avait des volontaires pour se faire injecter, ni plus ni moins, le coronavirus.
On se le ferait dans le nez, là, pas intraveineux, mais
direct.
On se ferait exposer directement. Donc, on saurait exactement quelle dose on envoie, puis on saurait exactement si les gens sont protégés ou pas. Bon. Alors, vous êtes porté volontaire.
Non, mais je disais ça à la blague. Comme je disais. Mais ben non, mais je disais. Non, mais écoutez, il y a des gens qui pensent que, oui, ben, être cobaye, ça veut dire aussi peut-être des effets secondaires là, sur un vaccin candidat.
Ben, c'est pas juste les. Bon, mais d'avoir le vaccin, les gens se portent volontaires pour recevoir le vaccin. Ça, on en a à toutes les années. On a des études de phase 3 où les gens sont prêts à s'enrôler. Puis ça, c'est correct. Il faut le faire. Et habituellement, quand on est rendu à ces phases-là, on sait que le vaccin est sécuritaire. Là où on a moins de volontaires, c'est pour se faire injecter le virus ou infecter par le virus directement.
Ouais.
Les gens sont habituellement prêts à recevoir le vaccin puis à continuer à vaquer à leur vie habituelle. Puis si jamais ils rencontrent le virus, on va savoir s'ils sont protégés ou pas. Mais on se rend compte que s'il faut qu'on attendre d'être exposé au virus, c'est beaucoup plus long que de dire « bon, je t'ai donné le vaccin, deux semaines plus tard, t'as des anticorps, maintenant voyons si t'es protégé ou pas, sprout, je te mets du virus dans le nez et si d'ici 14 jours t'as rien, ben t'es protégé, en un mois c'est fini ». Autrement, les études, ça prend des semaines et des années.
C'est ce que disait le docteur d'Oxford. Il a dit la même chose, celui qui travaille dans l'équipe du docteur Gilbert. Il a dit, si on faisait ça, on aurait la réponse tout de suite. Mais évidemment, du point de vue éthique, c'est impensable. C'est une maladie.
C'est pas vrai. Si c'est dans un contexte de recherche et que les gens acceptent librement...
Oui, attendez, vous pouvez mourir de cette maladie.
Je vous dis pas que vous allez accepter, mais je vous dis que d'un point de vue éthique... Si la personne accepte, parce qu'il y en a qui sont peut-être prêts à le faire, peut-être pas vous, mais bon, c'est correct. Mais puis je le comprends, là. Mais ce que je vous dis, c'est que si c'est dans le cadre d'une recherche clinique et que les gens l'acceptaient, ça pourrait se faire. Là, il y a eu des études, par exemple, sur le vaccin contre le norovirus, qui est un virus de la gastro-entérite. Les gens se faisaient vacciner et ensuite se faisaient injecter dans le nez le virus de la gastro. Puis là-dedans, il y avait du placebo contrôle. Fait qu'il y en avait qui étaient vaccinés, puis il y en a qui n'étaient pas vaccinés. Fait que ceux qui n'étaient pas vaccinés ou qui étaient vaccinés avec le contrôle vomissaient leur vie pendant 48 heures. Là.
Vous vous rendez compte?
Je suis d'accord avec vous. Ce que je vous dis, c'est que si on prend ça au pied de la lettre, là, d'un point de vue purement objectif et scientifique, c'est comme ça qu'on répond à la question le plus rapidement et le plus nettement possible. Mais on s'entend que ça ne sera pas...
Non. Parfait, ben, c'est ça. Mais écoutez, alors, on va suivre de près l'évolution. En plus de ça, vous avez raison, docteur Quash, une fois que la phase 3 montre un succès, il faut en plus produire des doses.
Tout à fait.
Et c'est long, ça, produire des doses pour 7 milliards d'humains.
Oui, c'est sûr que c'est long. Alors, il va falloir, après ça, prioriser les groupes à vacciner en premier. Ce ne sera pas tout le monde en même temps. Un peu comme dans le temps de la pandémie H1N1, on avait commencé par les enfants parce que c'était eux qui étaient le plus à risque. Les personnes âgées ayant déjà vu ce virus-là dans le passé n'avaient pas été vaccinées, puis ça avait créé un tollé. Mais les personnes âgées du H1N1, elles n'en meurent pas. Cette fois-ci, c'est probable que ça va être autrement. Puis là, si on commence par les personnes plus âgées, ben les parents vont hurler parce que leurs enfants ne seront pas priorisés. Mais donc, c'est toute cette réflexion-là qu'il va falloir avoir là, une fois qu'en fait, on va commencer déjà maintenant à réfléchir sur les groupes à prioriser quand le vaccin va être disponible, justement pour... parce que vous avez raison, là, c'est pas 7 milliards de doses qui seront prêtes d'un coup.
Non, ça sera pas prêt d'un coup. Docteur Quash, c'est toujours intéressant. Nous sommes passés, imaginez-vous, des virions, du micro, c'est-à-dire du coronavirus jusqu'au foulard Hermès. Alors, c'est tout à comme on dit, vous devez avoir cette gamme-là de nous avoir informés là-dessus. N'utilisez pas, mesdames, messieurs, votre foulard Hermès. Il ne sera pas nécessairement efficace et vous allez le gâcher. Merci beaucoup, docteur Quash.
Merci, au revoir.
Au revoir, docteur Caroline Quash-Tan. J'aime son sens de l'humour, mais aussi cette façon précise qu'elle a de nous informer. Tiens, parlant de masques, voyez, là, même Jean Héroldi va produire des masques. Je vous dis, Gucci va en produire. Et j'ai failli céder à la folie. Les Blackhawks de Chicago, sur leur boutique, vendent un masque contre le coronavirus. 27$ US. Voyons donc. 27 US. Mais voyez-vous, me promener le masque des Blackhawks à 27$ US. Alors que pour 75 cents, je peux m'en fabriquer un avec un bas blanc.